Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. Chars, missiles, armes de longue portée, la guerre en Ukraine a fait exploser les budgets militaires dans beaucoup de pays européens qui doivent continuer à soutenir Kiev mais aussi assurer leur propre stock. Si l'on additionne matériel, formation, aide financière, l'Union européenne a fourni à l'Ukraine environ 50 milliards d'euros. Mais les Ukrainiens, eux aussi, malgré les difficultés, accélèrent le développement et la production de nouvelles technologies militaires. Une plateforme en ligne baptisée Brave One permet de coordonner les différentes initiatives. C'est un reportage de notre correspondante en Ukraine, Emmanuelle Chaz.
Au milieu de toute la destruction qu'elle engendre, la guerre est aussi un moment où s'accomplissent dans l'urgence des progrès scientifiques et technologiques. Les entrepreneurs ukrainiens y contribuent. Depuis le début de l'invasion russe, ils redoublent d'ingéniosité pour tenter de faire avancer les techniques de défense sur terre, sur mer et dans les airs.
Хто захищає наші кордони, окрім військових? Інноватори, стартапери, підприємці.
Ce que vous entendez, ce n'est pas la bande-annonce d'un nouveau blockbuster, c'est la vidéo promotionnelle de Brave One, une plateforme numérique de coordination mise en place par le gouvernement ukrainien pour promouvoir la collaboration entre tous les acteurs de l'industrie des technologies de défense. Le but, stimuler et accélérer la production de ces technologies pour qu'elles soient disponibles plus vite pour les acteurs de la défense. C'est dans un souterrain sécurisé de la capitale ukrainienne que la plateforme est officiellement lancée. Et pour cause, les plus hauts gradés du pays sont venus signer un accord de coopération entre les ministères de la Défense, de l'Économie, des Industries Stratégiques, de la Transformation Digitale et les représentants des renseignements et de l'armée. Mikhailo Fedorov, Premier ministre délégué et ministre de la Transformation Numérique, explique.
C'est probablement la plus grande guerre technologique qui ait lieu sur notre planète aujourd'hui. Malheureusement pour nous, elle a bien lieu et beaucoup de gens meurent. Mais les technologies que nous pouvons mettre en œuvre peuvent faire une grande différence. Le projet que nous présentons, Brave One, porte là-dessus. Cette année, après l'invasion, compte tenu du nombre de nouveaux produits qui étaient apparus, nous avons clairement cru que l'Ukraine pouvait devenir le numéro un, au moins en Europe, en matière de technologies militaires, de défense et de technologies qui protègent la vie en général.
Effectivement, cette course contre la montre pour la survie de tout un pays donne lieu à des innovations sans précédent et dans des domaines variés. Des prothèses bioniques, des drones aériens, mais aussi sous-marins, ou encore, comme l'ingénieur Maxime Tour nous l'explique, des drones capables de chercher et soulever des objets, y compris explosifs.
Octocoptère, drone à impact, il soulève une charge utile de 12 kg. Autrement dit, soit plusieurs petites bombes, soit une grosse. Il vole à une distance de 10 à 12 km selon les conditions météo.
À quelques mètres de l'octocoptère, Stanislas Kordin de Drone UA est venu présenter de nouveaux canons anti-drones.
Ce sont des canons anti-drones de développement américano-ukrainien. Ils sont destinés à contraindre les drones à l'atterrissage forcé. D'abord, ils bloquent le signal GPS du drone et ensuite le drone perd son signal vidéo et sa radiocommande et dans la minute, il effectue un atterrissage forcé.
Les entreprises comme Drone UA sont le fruit de collaborations internationales, le genre de coopération que recherche et encourage le gouvernement ukrainien. Leur présence sur une même plateforme peut encourager d'autres partenariats et faciliter ainsi les échanges, comme l'explique Ruslana Zani, responsable marketing de Drone UA.
Des ingénieurs ukrainiens qui se trouvent en Ukraine et aux États-Unis sont en train de développer des armes anti-drones. Une partie de l'équipement, des logiciels et de l'électronique radio est conçue et fabriquée aux États-Unis, puis transférée ici. D'autres ingénieurs ukrainiens les complètent ici et les mettent sur le marché sous forme opérationnelle.
Un an après l'agression de la Russie sur l'ensemble de l'Ukraine, des centaines d'entreprises ukrainiennes ont adapté et réorienté leur production en vue de la défense du pays. Brave One leur donne une visibilité nouvelle dans l'espoir que l'intérêt et la solidarité internationale ne faiblissent pas.
Caccia al cinghiale. Battuta al cinghiale, siamo duri da ammazzare, ehi, ehi. Sei uno sporco maiale.
Sparo, fuga, vai, morto.
Pas un jour ou presque sans que la presse italienne parle de ces nouveaux citadins qui sont loin de faire l'unanimité, les sangliers. Autrefois cantonnés aux forêts, les sangliers envahissent les villes. Depuis l'automne, la chef du gouvernement Giorgia Meloni autorise les habitants à les abattre, y compris dans la capitale, Rome. Mais rien ne semble arrêter leur prolifération. Les détails avec notre correspondante Cécile Debarge.
Des sangliers qui se baladent sur les voies de la gare de Foggia dans le sud de l'Italie, d'autres qui gambadent dans le centre-ville d'Ancône devant le palais de la région des Marches, un conducteur qui finit dans un mur après avoir voulu éviter un sanglier sur une route du Latium ou une famille dans la région de Parme qui n'ose plus sortir dans son jardin, pris d'assaut par une petite trentaine de sangliers. On pourrait trouver la présence de ces mammifères plutôt insolite, mais depuis près d'un an, les sangliers se retrouvent de plus en plus souvent dans la rubrique faits divers des médias italiens. Ils provoquent des nuisances qui irritent de plus en plus les Italiens. En 2011, seuls Gênes et Trieste, dans le nord du pays, étaient touchés par ce phénomène. 10 ans plus tard, les sangliers sont présents dans plus de 100 villes italiennes. Selon l'Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementale, ils sont près d'1,5 million en Italie. Dans une étude publiée en juillet 2022, le syndicat agricole Coldiretti parle, lui, de plus de 2,5 millions d'animaux et dénonce les ravages qu'ils provoquent sur l'agriculture du pays. Depuis l'hiver dernier, les Italiens sont désormais autorisés à abattre les animaux sauvages, en particulier les sangliers, en ville. Un premier pas trop timide, déplorent les habitants qui ont abattu des sangliers. Ils dénoncent le coût à payer ensuite pour que la carcasse de l'animal soit prise en charge dans le respect des normes sanitaires. Pour les manger, il faut faire des analyses en laboratoire pour vérifier qu'ils ne sont pas malades.
Je suis un loup qui jadis était très méchant, mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents. Sur une grand-mère solide comme un roc, tout est à l'envers, c'est une triste époque. J'étais loup méchant.
En Allemagne, ce sont les loups qui font grincer les dents des éleveurs. Très protégés au niveau européen, les loups sont aujourd'hui de plus en plus nombreux. On en décompte 1 000 000 en Allemagne, de l'Est à l'Ouest, en passant par la Bavière. Au point que les agriculteurs se sont réunis à Berlin pour demander que leur nombre soit régulé. Reportage de notre correspondante Delphine Nerbollier.
Difficile de rater Thomas Hammer. Devant la porte de Brandebourg, cet éleveur ne passe pas inaperçu avec son costume traditionnel bavarois, sa culotte de cuir et son chapeau à plumes. Une grosse cloche à la main, il est venu manifester en plein Berlin pour demander davantage de mesures contre le loup. Il élève des chèvres d'une race rare dans le nord de la Bavière et il voit le loup s'approcher de ses bêtes. Thomas Hammer.
J'ai un petit troupeau de chèvres des montagnes de Thuringe. C'est une race très ancienne. Pas loin, j'ai déjà vu des attaques de loups. Je n'ai aucune envie que ça arrive à mes bêtes. Le problème n'est pas encore trop important chez nous, heureusement, mais ça va venir. L'extrême diversité que nous avons dans nos paysages en Allemagne, nous la devons au fait que nous n'avons pas eu de grands prédateurs comme le loup, le vautour ou l'ours. J'aimerais que l'Allemagne redevienne libre de toute présence du loup, comme il y a 100 ans. Nous n'en avons pas besoin. Seules les associations de défense de la nature en ont besoin pour gagner de l'argent public.
Si cet éleveur n'a pas encore subi de dommages, 4 000 attaques de loups ont été recensées en 2021 dans le pays. Un chiffre qui avait doublé en 2 ans. C'est ce que montrent les quelques manifestants présents devant la porte de Brandebourg avec des pancartes suggestives. On y voit des moutons et des vaches mordues, voire déchiquetées par le prédateur. Un peu plus loin, dans Berlin, la Fédération allemande des agriculteurs organisait ce même jour un sommet sur le loup. Car selon ces professionnels, il est urgent d'agir. Il en va de la survie des petits éleveurs. C'est ce que constate un de ses membres, Eberhard Hartelt, devant l'Assemblée.
Le fait est que l'élevage dans les pâturages est victime d'une mauvaise politique du loup. Sans une régulation du nombre de loups, ce ne sera pas accepté dans les zones rurales. L'objectif doit être de fixer un nombre maximal de bêtes et de pouvoir les chasser quand elles sont plus nombreuses. C'est une régulation ciblée et pas une extermination du loup.
Des Wolfes.
Actuellement, en Allemagne, le loup bénéficie d'une protection maximale. Déclaré espèce en danger, il est impossible de le tuer, sauf dans des cas très précis et très réglementés. Certains pays ont toutefois reçu une dérogation européenne, comme la France, qui dispose d'un quota de chasse annuel. C'est ce que souhaiteraient obtenir les éleveurs allemands. Mais le gouvernement fédéral bloque. D'après lui, cette demande est prématurée. Peu importe, la région de la Bavière a passé outre ce refus. Depuis le 1er mai, il est possible d'y abattre un loup considéré comme dangereux pour l'homme ou pour les troupeaux. Des critères assouplis donc que défend la ministre de l'Agriculture bavaroise, Michaela Kanibar. Elle était elle-même à Berlin pour le sommet du loup.
On voit circuler des photos en Europe de loups pendus par les oreilles, comme au Moyen-Âge. Personne ne veut voir ça chez nous. Mais nous serons confrontés au braconnage si l'on refuse des mesures de gestion du nombre de loups. C'est pour ça qu'en Bavière, nous en sommes convaincus, nous avons besoin d'une ligne d'action claire et rapide. Nous ne pouvons pas attendre que le nombre d'attaques augmente.
La question du loup est d'autant plus polémique que des élections régionales approchent, en Bavière justement. Pour les associations de défense de l'environnement, le loup est clairement instrumentalisé par certains partis, surtout par ceux situés à droite sur l'échiquier politique. Uwe Friedel travaille à l'ONG Bund en Bavière et il constate une vraie polarisation de la société sur la question.
Il sera difficile de trouver un consensus à 100%. Notre position est que le loup a le droit de vivre et d'avoir un lieu de vie. Les fédérations d'agriculteurs le disent aussi. Ils ne sont pas pour l'extinction du loup, mais ils disent pas chez nous. Quand on en parle avec eux en petit groupe, le dialogue est toujours bon, mais quand le débat est ouvert à plus de monde, on constate une polarisation qui est par ailleurs recherchée par la politique. Pendant les campagnes électorales, les défenseurs de la nature sont toujours montrés comme les ennemis.
Dans l'imaginaire collectif, le loup reste une source de peur. Il cristallise les tensions entre le monde de la ville et celui de la campagne. Il ne semble donc pas prêt de perdre de son importance dans les débats politiques.
C'est toujours comme ça, c'est le loup qui est le méchant.
Trop de loups, c'est aussi ce que dénoncent les habitants des campagnes de Croatie, surtout quand ces campagnes se dépeuplent. Et dans certaines régions, la population est tout simplement excédée, comme nous l'explique Simon Rico.
Nous sommes devenus un pays de loups. Il y a de moins en moins de gens. Si cela continue, nous n'allons pas tarder à devenir une réserve de chasse pour riches. Voilà ce qu'Ivan Teschia, président d'une association d'éleveurs, répondait à l'hebdomadaire Novosti venu l'interroger. C'était au printemps 2021. Plusieurs attaques de loups très meurtrières venaient d'avoir lieu dans la Lika. Ces terres de l'arrière-pays dalmate étaient habitées par une importante minorité serbe qui en a été chassée à la fin de la guerre des années 90. Les éleveurs du coin se sont bien équipés d'enclos électriques, conditions nécessaires pour être indemnisé, mais rien n'y fait, les attaques continuent et des milliers de bêtes meurent chaque année. Pour eux, le problème est exacerbé par l'interdiction totale de tuer des loups réintroduite en 2013. En Croatie, le grand prédateur qui a bien failli disparaître est protégé depuis 1995, mais aucun comptage officiel n'a eu lieu depuis bientôt 10 ans. Cela favorise la propagation des rumeurs sur le nombre réel de loups, même si les spécialistes considèrent qu'il reste stable dans le pays, autour de 150 à 200 têtes. Selon les scientifiques, ce sont les chiens-loups, soit environ 10% de la population, qui seraient les principaux responsables des attaques de troupeaux. Moins bons chasseurs, ils visent les ovins, des proies plus faciles plutôt que les cerfs ou les sangliers. Face à la colère des éleveurs, les autorités de Zagreb se bornent à les inciter à toujours mieux se protéger, en rappelant que les bêtes tuées sont indemnisées et que l'abattage des loups ne garantit pas une baisse du nombre d'attaques. Voilà qui ne suffit évidemment pas à rassurer les habitants de la Lika, convaincu que plus la population humaine diminue, plus le nombre de loups et donc d'agressions augmente.
Au Danemark, les jouets pour enfants sont en train de changer pour devenir plus inclusifs. Tous les enfants doivent pouvoir se sentir représentés, mais aussi accepter les différences. Ça, l'industrie en tient compte plus que jamais. Et Clémence Pénard, c'est une bonne nouvelle.
Quand on était petit, les poupées noires aux cheveux crépus, même si ça existait, c'était rare d'en voir dans les rayons de supermarché. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jouets sont représentatifs de la diversité. Après Playmobil et Barbie, la marque danoise Lego se met aussi à commercialiser des personnages inclusifs. Dans cette gamme spéciale, on retrouve ainsi une figurine asiatique, une en fauteuil roulant, ou encore une autre avec son vitiligo, ce trouble de l'épiderme
qui se caractérise par des taches blanches. Le but, que le plus grand nombre d'enfants possible se sentent représentés. Bon, on pourrait se dire que créer des personnages plus divers, c'est juste une tendance commerciale, mais d'après une étude commandée par la marque, 68% des enfants européens veulent que leurs jouets ressemblent aux gens dans la vraie vie. Et plus les constructeurs répondront à cette demande, moins la célèbre étude des psychologues Kenneth et Mamie Clark aura des résultats effrayants. Vous savez, cette expérience américaine où l'on montre une poupée noire et une poupée blanche à des enfants racisés, à l'issue de laquelle ils ont majoritairement choisi la blanche, parce qu'elle a l'air plus gentille, selon leurs propres mots. Si cette expérience montre que dès le plus jeune âge, les enfants peuvent souffrir d'une dévalorisation de soi qui se répercute jusque dans leur vision de leur jouet, le contraire est également vrai. Jouer avec des personnages moins normés a des effets très positifs sur l'estime de soi ou encore, évidemment, en termes d'empathie. Rappelons que les jouets, tout de même, ne sont qu'une goutte dans le vaste océan de messages que les enfants absorbent chaque jour.
Merci Clémence Pénard. Toutes vos bonnes nouvelles, on les retrouve chaque semaine sur Enter et ses réseaux sociaux, bien sûr.
May I have your attention, please? Music, rockin' music.
You like music?
Music when you lose control.
Why don't you put a record on?
Et c'est l'heure de retrouver Vincent Théval, comme tous les vendredis, pour la chronique musique. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, je crois qu'on va frissonner.
Oui, avec des monstres et des créatures fantastiques. C'est en tout cas ce que nous promet le trio Violon Barbare pour son 4e album qui vient de paraître et prolonge les audacieux mélanges que propose le groupe depuis sa formation. Voilà une 15aine d'années, il réunit un Bulgare, un Mongol et un Français autour d'une musique qui conjugue une énergie très rock aux sonorités traditionnelles du chant diaphonique ou de la vielle bulgare. Pour Monsters and Fantastic Creatures, le trio s'est plongé dans les croyances archaïques populaires de Mongolie et de Bulgarie. Et parmi celles-ci, on retrouve le vampire, démon invisible qui se nourrit du sang de ses victimes. Et l'une des méthodes pour s'en débarrasser consiste à jouer de la musique le samedi sur sa tombe. Et quand le vampire sort de sa tombe pour danser irrésistiblement, on le tue avec un fusil. Mais vous et moi, Juliette, pouvons danser sans risque au son de cette Vampiri Talasami.
Vampiri Talasami, Vampiri Talasami, танцуват по-налами, 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 покриват и да се крият, със налами да се бият, ака мадама.
Vampiri Talasami, un titre du groupe Violon Barbare et une chronique signée Vincent Théval. À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Retrouvez nos reportages, nos émissions sur votre plateforme de podcast préférée et sur RFI.fr, bien sûr. À bientôt.